Bonjour à tous, le sommaire de ce jeudi 12h. Le chef de l'État sensible à la situation des populations vivant dans les quartiers précaires, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont nous devons faire preuve dans ces opérations d'assainissement afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays, a déclaré Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, qui s'exprimait en conférence de presse d'après conseil des ministres. D'ailleurs, l'invité de la rédaction de ce jour, Oka Alain Thierry, chef du département droit civil et population au Conseil national des droits de l'homme, se prononcera sur cette opération de déguerpissement qui, selon lui, viole certains droits de l'homme dans un entretien conduit par Aoussi Potin. Nous irons à Daloa où la Fondation Friedrich Ebert a organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur le thème « Femmes migrantes au travail, décent, cohésion et développement ». Il s'agit pour cette fondation de mieux faire comprendre le rôle des femmes migrantes dans le tissu social et économique en Côte d'Ivoire et contribuer au développement local. Dans l'actualité internationale en Guinée-Conakry, le journaliste Sékou Djamal Pandessa a libéré les syndicats suspects. De la grève, voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au cours duquel le Premier ministre a engagé des concertations pour l'assainissement des quartiers précaires d'Abidjan. Le chef de l'État a également invité à la solidarité et à l'humanisme dans les opérations d'assainissement. Là-dessus, écoutons le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly.
Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant le poste d'attaché de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire, accréditées auprès donc des pays étrangers. Ces postes seront occupés par des agents issus des personnels de la police nationale avec pour mission de prémunir, en synergie avec les autres services de sécurité, le pays contre les trafics ou projets criminels conçus en dehors de nos frontières.
Voilà, c'était le porte-parole du gouvernement qui s'exprimait, n'est-ce pas, sur les opérations de déguerpissement. On reviendra donc sur la sécurité des postes d'attachés de sécurité créés dans les ambassades de Côte d'Ivoire. Le porte-parole du PDC-IRDA s'est prononcé sur certains points de l'actualité, dont la liste électorale, la cherté de la vie et l'actuelle opération de déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. Et bien sûr, cette dernière, le député Soumaïla Kwasi Bredoumi a préconisé qu'elle tienne compte du volet humanitaire, ajoutant que c'est aussi la preuve que le pouvoir s'est fourvoyé quant à la réalisation de son projet de logements sociaux qu'il avait pourtant érigé en priorité. C'était lors d'une conférence de presse au siège du parti, Francis Cassi pour le compte-rendu.
C'est très en verve à cette conférence de presse que le porte-parole du PDCI a, dans son propos liminaire, exposé sur ces trois sujets, commençant par l'inscription sur la liste électorale qu'il a jugée très importante pour le président de son parti, Soumaïla Kouassi Bredoumi.
La révision de la liste électorale demeure une priorité pour lui. Le président Thiam relève que notre liste électorale ne comporte que 8 millions d'électeurs sur une population quasiment 30 millions, soit environ 29% sont inscrits sur la liste électorale. Selon les organisations internationales expérimentales en matière, il faut un taux d'inscription au moins égal à 40%.
Ensuite, il a embrayé sur la question de la vie chère.
Mais les choses ne font que s'empirer. Quand on augmente l'énergie, on accifie les industries si elles n'augmentent pas leur produit final. On étouffe la population, on prive les petits commerces.
Puis le conférencier s'en est pris à l'opération du déguerpissement en cours à Abidjan.
On ne dit pas de ne pas faire la salubrité, mais la salubrité à visage humain. Ce qui se passe à GESCO, c'est le résultat de l'échec de la politique de logement du RHDP. Le RDR avait promis construire des logements sociaux à 5 millions de francs CFA. Ils ont réalisé le coût des logements sociaux à 8 millions, à 12 millions, maintenant c'est 25 millions. Quel est l'Ivoirien moyen fonctionnaire travaillant qui peut se payer facilement 25 millions de logements?
Et sur cette affaire de déguerpissement faisant débat entre le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan et le maire de Yopougon, le porte-parole du PDCI a aussi dit ceci. On nomme quelqu'un et il veut commander ceux qui ont été élus.
Signalant Francis Kassi que la prochaine étape des déguerpissements à Abidjan selon un programme du district courant du 9 au 17 mars 2024. Et bien ces opérations qui sont tant décriées concernent 176 sites dont 77 zones critiques listées sur le site de la collectivité territoriale www.abidjan.district.ci. Linda Ballier l'a consulté et nous propose quelques sites concernés.
Si la Côte d'Ivoire vient de brandir la Coupe d'Afrique des Nations de football, celle de la salubrité ne tardera pas, surtout s'il y va de la sécurité et du bien-être des populations. À cet effet, le gouvernement ivoirien, via le district autonome d'Abidjan, a répertorié 176 quartiers dans toutes les 12 communes d'Abidjan à démolir, spécifiquement les constructions anarchiques, les zones à risque d'inondation et de glissement de terrain. Ainsi donc, à Abobo-Labelle, 15 quartiers feront l'objet d'une attention particulière, parmi lesquels Sagbe, Biabou, Ndotré Centre de Santé et le bassin d'orage d'Anonkwa. Une autre commune dont 35 quartiers révèle un taux de criticité élevé est celle de Yopougon, qui a récemment vu les caterpillars du district opérer à GESCO et Banco 1. Outre ces localités, le ministre gouverneur entend déguerpir celles de Nyangon à Djamé, Cité Kestab, Koweït, Académie Pays-Bas. Même la cité smart de la capitale économique ne sera pas en marge de cette destruction massive. La Carina côté Pinasse, le boulevard de la Paix face au marché Vivrier ou encore la Bretelle Chardy seront rayés de la cartographie du plateau. À Marcory, la commune Chic et Fleury, les démolitions concerneront les secteurs Anoumabo 3e pont, à Mangou Village, la casse du pont Anoumabo et celle vers l'ARTCI. La liste des sites à déguerpir dans cet élément est non exhaustive et consultable sur le site du district d'Abidjan. Mais rappelons cependant qu'au-delà de l'émotion, l'opération a pour but de prévenir les éboulements et les inondations, comme souvent constaté en saison de pluie, période qui enregistre bien souvent des pertes en vies humaines.
Éducation nationale à présent, le mardi 27 février 2024, les écoles d'Abidjan ont été perturbées suite à un appel de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FECI. Une journée d'arrêt des cours a été observée en signe de protestation contre la démolition d'une école à GESCO. Hier mercredi, une reprise des cours a été constatée dans quelques établissements, tandis que d'autres restent encore fermés. Le constat de Christelle Yesso.
24 heures après le passage de la FECI, les cours ont repris au lycée classique de Cocody, selon le constat que nous avons fait. Monsieur Cissé, adjoint au chef d'établissement.
Ce matin, les cours ont repris et se déroulent normalement jusqu'à 7h6. Il n'y a pas eu de perturbations sur les documents de forme. Ces sont là. Certains avaient des évaluations et les autres sont tenus. Nous sommes dans une période calculée moyenne.
Situation identique au Collège moderne du Plateau, où élèves et enseignants ont fait opposition à la Fédération estudiantine. Diakwadio, principal de l'établissement.
Ils ont tenté, mais il y a eu cet engagement de l'ensemble des personnels qui voulaient travailler.
Une démarche également adoptée par les élèves. Notre passage dans une école primaire à Kokodi Danga nous fait savoir qu'aucun arrêt de cours n'a été enregistré. Kone Zana, directeur EPP Kokodi Danga.
À ce que je sache, aucune école primaire n'a été inquiétée. Je crois que la FECI avait affaire au secondaire et je crois au supérieur. En tout cas, je n'ai pas entendu quelque part qu'ils ont délogé une école primaire.
Il nous revient aux communes telles que Yopougon. Certains établissements primaires et secondaires sont encore fermés par mesure de sécurité.
Dans le cadre de son engagement vers l'équité sociale, le développement durable et la promotion des droits des travailleurs et travailleuses, la Fondation Friedrich Ebert a organisé à Dalloa un atelier d'information et de sensibilisation sur le thème « Femmes migrantes au travail décent, cohésion et développement ». Il s'agit pour cette fondation de mieux faire comprendre le rôle des femmes migrantes dans le tissu social et économique en Côte d'Ivoire et contribuer au développement local et au renforcement de la cohésion sociale, compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Ce projet vise à mieux informer et sensibiliser sur les droits des femmes migrantes pour un travail décent en Côte d'Ivoire. Séraphin Konan Kwame, conseiller politique à la Fondation Friedrich Ebert.
Avec nos collègues de l'Afrique du Nord, on a vu tout le couloir migratoire qui part des fois même de Daloa, de Boaké un peu partout, en passant par le Niger, le Burkina, le Mali, en Tunisie ou au Maroc. On a beaucoup de migrants ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, 70 à 90% des travailleuses domestiques, parfois, qui sont des migrantes, ne sont pas déclarées à la CNPS. Et parfois, il y a des conflits. Comment pouvoir gérer ces conflits? Pour la cohésion sociale, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Et sans développement, il n'y a pas de paix.
Cette formation permettra aux participantes et participantes de mieux communiquer et sensibiliser sur les risques de la migration irrégulière.
J'ai tenté l'aventure en Algérie. J'ai fait 8 mois. Je suis revenue en Côte d'Ivoire. Le parcours n'a pas été du tout facile. J'ai perdu tout. Que les gens ne s'aventurent pas sur les chemins de la migration irrégulière.
C'est vraiment dangereux de s'aventurer parce qu'il y a la mort qui est là, il y a l'échec. Il est préférable de rester dans notre pays. Il y a assez d'opportunités pour pouvoir atteindre nos objectifs.
La Fondation Friedrich Ebert entend poursuivre ses rencontres afin de mieux promouvoir les concepts de travail décent, de cohésion sociale et de développement en lien avec la problématique des femmes migrantes en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Dalloa, Radio de la Paix.
Et nous restons toujours à l'ouest du pays, mais cette fois-ci à Mans. Après plusieurs mois de suspension d'exportation des denrées alimentaires, le gouvernement ivoirien vient de lever cette mesure d'interdiction d'exportation de certains produits agricoles, dont la banane plantain. Cette décision a été saluée par les productrices et commerçantes de la ville. Toutefois, elle lance un appel après de nombreuses pertes enregistrées. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tampi.
Cette décision de lever de la mesure des suspensions de l'exportation de la banane plantain, du manioc et des dérivés ainsi que l'igname a été saluée avec joie par les femmes opérant dans le commerce de vivriers dans le grand marché de la ville de Mans.
On est en paix, on est en joie. Vraiment, on a souffert. On a souffert, notre bagage est gâté partout. On a maigri, mais on va grossir.
Grossir, certes, mais la prise en charge de la famille reprend son cours normal. Au dire de Dame Kone Fatou, qui avait arrêté momentanément ses activités commerciales.
Moi, j'avais arrêté de vendre mes sacs de placali en Guinée et au Mali. À cause de la situation, je n'arrivais plus à nourrir ma famille. Aujourd'hui, je suis contente que le gouvernement accepte qu'on reprenne notre travail, surtout le commerce que nous faisons habituellement. Je dis merci au gouvernement.
Une reprise difficile pour certaines commerçantes qui ont enregistré de nombreuses pertes. Elles en appellent aux bonnes volontés. Présidente de coopérative, Dame Philomène Tiaglao.
Les bagages de vouvriers là, c'est pourrissant. Quand tu fais seulement que 2 jours, c'est le prix pour toi. L'arrêt de 3 semaines qu'on a eu, on a perdu tous les fonds. On a cogné le poteau pour pas venir à nos secours.
Pour rappel, pour des raisons de sécurité alimentaire, le gouvernement gouvernement ivoirien avait décidé la suspension le 15 janvier dernier pour une durée de 6 mois de l'exportation de plusieurs produits vers les autres destinations. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Et puis à Bonyeré-Dougou, sous-préfecture située dans le département de Dabakala, région du Hambol, les producteurs de la noix de cajou ne sont pas contents du prix du kilogramme du produit fixé à 275 francs CFA. Certains planteurs menacent même d'abandonner cette spéculation, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke.
Ils sont nombreux à Bonyeré-Dougou, les producteurs de la noix de cajou, qui expriment leur mécontentement relativement au prix du kilogramme du produit fixé à 275 francs.
C'est même pas bon, et même savent que c'est pas bon, ça nous arrange même pas. Moi, je suis que 5 états d'Anaka dans mon nom, mais je vais pas là-bas. Je préfère rester dans mon brouboury. Je suis un chauffeur, ça que là aujourd'hui, là, ça combien? T'es un cachat d'abord même là, ils vont te parler de 25 500. Pourquoi tous les autres sont chers pour nous là? Ça, ça fait jamais au moitié. À 275 là, ça nous arrange pas. Oh, mon papa là, il y a plus que 20 états d'Anaka, mais pourquoi moi, il laisse mon chien, mon village, venir me poser à Bonyeré. C'est passé en Akali, là, pour rien.
Moi, je trouve que les prix que les cas donnent là, ça nous en a rien. Quand tu achètes en Akali, tu vois que non, c'est 275, tu es cher.
La culture anacadière est difficile et donc par conséquent, le prix au kilogramme devait connaître une embellie, estiment certains planteurs.
Moi, c'est moi seulement en Akali, si on veut payer pour que tout le monde soit satisfait, en Akali doit atteindre 400 ou 500 francs le kilogramme. Là, la population sera satisfaite. Bon, on ne peut pas penser que ça va augmenter.
Quel que soit le fond, il va avoir moins de 300 à 300.
Un jeune producteur révèle que si le prix du kilogramme de la noix de cajou ne connaît pas d'augmentation, cela va induire une conséquence.
J'ai oublié de s'intéresser à faire chien dans la carte d'accord. J'ai réussi de laisser tomber faire chien dans la carte parce que le prix, c'est pas trop ça. Ça n'encourage pas. Ça ne donne pas le courage d'aller dans les champs pour aller nous tailler même.
Les producteurs de noix de cajou que nous avons rencontrés plaident afin que le prix du kilogramme de l'anacarde fixé à 275 francs soit revu à la hausse. Joseph Assalé, Bonyeré Dougou, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale en Guinée-Conakry, le journaliste Sekou Diamal Pandis a été libéré. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse était détenu. Depuis plus d'un mois, il était poursuivi pour l'effet de provocation directe à un attroupement par le biais d'un système informatique et la protection de données à caractère personnel dans le pays. Pour exiger sa libération, eh bien, le mouvement syndical guinéen, une association de 13 centrales syndicales, a appelé à une grève générale illimitée, largement suivie en marge de ce mouvement de grève. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait des morts et de nombreux blessés ce mercredi. Quelques heures après sa libération, le mouvement syndical a annoncé la suspension du mot d'ordre de grève. Sans transition, nous arrivons à présent à l'invité de la rédaction. Depuis le 27 janvier 2024, l'on assiste dans le district autonome d'Abidjan à des opérations d'envergure, de déguerpissement et de démolition de sites d'habitation, de commerce ainsi que d'établissements scolaires menés par le dit district pour le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Eh bien, ces opérations de déguerpissement et de démolition telles que menées actuellement piétinent certains droits de l'homme, eh bien le CNDH suggère une approche beaucoup plus humaine et indique aussi les voies de recours qui s'offrent aux populations qui se sentiraient lésées. Eh bien, pour en parler, au cas Alain Thierry, chef du département droit civil et politique au CNDH, est l'invité d'Aoussi Potin.
Monsieur Oka Thierry, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Depuis le 27 janvier 2024, l'on observe des opérations de déguerpissement et de démolition de sites d'habitation et de commerce dans le district autonome d'Abidjan. Et le 23 février 2024, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a rendu publique une déclaration relative à ces opérations. Que reproche le CNDH à ces opérations?
Merci à vous. Je parle au nom de Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme. À la vérité, je voudrais d'entendre dire que le CNDH ne fait pas de reproches. Le CNDH suggère des actions beaucoup plus humaines, des actions qui respectent les droits de l'homme conformément à notre mandat. Il ne s'agit pas de faire des reproches à qui que ce soit, mais à suggérer des actions qui tiennent compte des droits de l'homme.
En l'occurrence, quels sont les droits de l'homme qui auraient été donc violés dans ces opérations de déguerpissement et de démolition qu'a noté le CNDH?
Vous conviendrez avec moi que dans une opération de dépolissement, c'est aussi le droit au logement qui est mis à mal parce que des maisons, des commerces sont détruites. C'est aussi le droit à l'éducation parce qu'on a pu observer par endroits que des écoles ont été détruites. Mais on va plus loin. Ce genre d'opération de démolissement de maisons entraîne un impact sur le droit à la santé. On voudrait le dire sans embâche, le droit à la vie pourrait être menacé dans ce genre de circonstances. Et donc il y a une kyrielle de droits de l'homme fondamentaux qui sont mis à mal à l'occasion de ce type d'opération.
Alors, quel recours existe pour ces personnes qui aujourd'hui découvrent en vous écoutant, ou bien qui découvriraient en vous écoutant que certains de leurs droits ont été lésés? Est-ce qu'il y a des recours juridiques? On a à l'esprit cette image de la jeune fille qui cherche son diplôme dans les débris de démolition.
Oui, effectivement, nous avons pu constater cela sur le terrain, nous-mêmes, quand nous y étions. Et pour ce qui concerne les voies de recours juridiques, il y a plein de voies qui s'offrent aux populations. Nous sommes dans un état de droit. Et les tribunaux sont là pour recueillir les plaintes des populations. Mais pour le Conseil national des droits de l'homme, de prime, il convient d'inviter ces populations à s'organiser en un collectif assez fort pour pouvoir vraiment rester en justice. Parce que sur le terrain, nous avons pu observer des populations qui sont détentrices de titres fonciers. Le titre foncier est quelque chose d'assez sérieux dans notre État. Et donc, il y a des voies d'urgence pour les personnes déjà qui ont vu leur maison démolie. Il y a des procédures devant les tribunaux, mais pour ces personnes aussi qui sont menacées de voir leur maison, leur habitation détruite, il y a la procédure de référé d'heure à heure. C'est une procédure d'urgence qui pourrait être utilisée pour faire sursoi à ce genre d'action et entrepris par les autorités compétentes qui le font actuellement sur le terrain. Mais pour tout ce qui concerne les droits de l'homme, notre mandat, nous, dans le pouvoir de les recevoir, d'adresser toutes les questions de droits de l'homme mises à mal à l'occasion de ces opérations de déguerpissement des populations.
Est-ce une manière pour vous de dire à ces populations concernées qu'elles peuvent recourir au CNDH pour les accompagner dans le respect de leurs droits?
Dans le respect de leurs droits, elles peuvent recourir au CNDH, elles peuvent recourir aux tribunaux au niveau national, mais également au niveau régional. Elles peuvent rester devant la Cour de justice de la CEDEAO pour faire respecter leurs droits.
Monsieur Oka, l'on sait que ces actions donc de démolition par le district autonome d'Abidjan, en l'espèce, les populations peuvent se trouver quelque peu intimidées de se dire « Est-ce que je peux rester en justice contre le ministre gouverneur du district d'Abidjan ?»
Pour le Conseil national des droits de l'homme, il ne s'agit pas d'être en justice contre le ministre gouverneur du district d'Abidjan. C'est une administration qui est en train de mener une action. Très souvent, la question a été personnalisée autour de la personne du ministre-gouverneur que nous respectons, mais également ses services sont sur le terrain en train d'exécuter des décisions administratives. Et donc, pour nous, il s'agit de demander aux populations de se dire que nous sommes dans un état de droit, nous tenons à le répéter, qu'elles peuvent vraiment saisir les autorités, les pouvoirs judiciaires pour donner une suite à leurs préoccupations. Nous sommes là pour les accompagner, c'est notre mandat, c'est notre rôle, car bien voulu nous donner l'état de Côte d'Ivoire, nous ne faillirons pas à notre mission d'accompagner ces populations en détresse.
Quelles sont les recommandations effectives du Conseil national des droits de l'homme, CNDH?
Écoutez, nos recommandations sont contenues dans notre rapport, mais vous me donnez l'occasion pour y revenir.
Je vous en prie.
À la vérité, cette opération doit tenir compte des droits de l'homme. Quand nous l'avons dit comme ça, cela paraît beaucoup plus généraliste, mais il convient d'informer suffisamment les populations. Je dis bien informer suffisamment ces populations, les accompagner dans le processus de faire sortir leurs effets personnels, les sensibiliser sur le bien fondé de ces opérations. C'est vrai, on nous dira que ces populations sont informées depuis belle lurette, mais il n'est pas de trop d'informer les populations, d'utiliser la communication par excellence pour les amener à comprendre le bien fondé de ces opérations. Quand elles sont faites sans que les populations ne soient suffisamment informées, nous assistons à des dégâts. Nous voulons recommander aux autorités compétentes sur le terrain actuellement de tenir compte des droits de l'homme, d'ouvrir la voie de la discussion, de la concertation.
Monsieur Oka Thierry, nous vous remercions.
Merci.
Voilà, au Katiri, chef département droit civil et politique au Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire était interrogé par Aoussi Poutin dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel de l'essentiel. Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurité du pays à partir des ambassades. Des postes d'attachés de sécurité sont prévus à ce effet dans un projet de décret. Nous y reviendrons. Nous avons été à Daloa où la fondation Friedrich Ebert a organisé, n'est-ce pas, un atelier d'information et de sensibilisation sur le thème femmes migrantes au travail décent, cohésion et développement. Il s'agit pour cette fondation de mieux faire comprendre le rôle des femmes migrantes dans le tissu social et économique en Côte d'Ivoire et contribuer au développement local. Enfin, dans l'actualité internationale, en Guinée-Conakry, le journaliste Sekou Djamal Pandé s'est libéré. Les syndicats suspendent la grève. Fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Mel Emmanuel.
Bonjour à tous. Le parcours de l'actualité dans nos journaux parus ce jour est fortement marqué par les déguerpissements dans le district d'Abidjan, tant il continue de